Eh bien oui, ils sont là. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité, ci-devant le Wawaron peut-être le plus connu au Québec.
Probablement. Le seul avec un titre, en tout cas.
Bonjour, mon cher Alec.
Salut.
Et notre crapaud favori. Le favori de ces foules, elles sont nombreuses. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, mon crapaud favori.
Allô?
Comment vas-tu?
Ça va bien, surtout que tu as parlé à un crapaud tout à l'heure.
Oui, je dirais qu'il peut être crapaud à 16 heures, n'est-ce pas?
Tu lui as quasiment dit qu'il était crapaud.
Oui, mais j'ai
gardé. On sent que ça te brûlait.
Oui, non, mais je le garde pour toi. Je le garde pour toi. Le
ah, t'es gentil.
Des fois, je m'échappe un petit peu avec d'autres. Mais
t'es gentil. Mais je pense que t'as dit Snorro. Mais on t'entend dans l'extrait qui suit. Donc, dans ton entrevue avec Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay.
Oui. Oui, oui.
Écoutons cet extrait.
Bien sûr.
Un petit peu, peut-être. Là. Il y a un peu de vrai dans ce que vous dites. Un peu. Je dis un peu. Parce qu'on est tous opportunistes dans la vie. Vous êtes au poste de radio qui est le plus fort à Montréal.
Ah, vous êtes
si le poste de radio le plus faible, vous avez demandé, vous seriez peut-être pas allé. Vous êtes opportuniste. C'est normal, c'est correct. Parce que vous voulez avoir de la vision, vous voulez que votre voix porte. Et vous avez dit, bon, avec le 98.5, là, j'ai le meilleur, c'est avec eux autres, je vais travailler.
C'est crapaud, ça.
Écoute, c'est assez crapaud.
Ah oui. Hein, parce que la question, c'était, vous n'êtes pas un peu opportuniste d'aller avec la CAQ? Parce qu'il s'en va avec la CAQ, là, il va travailler comme
alors qu'il a toujours, été libéral.
Ben, c'est ça.
Ben oui.
Puis opportuniste, qu'est-ce que ça veut dire? Politique consistant à tirer parti des circonstances, à les utiliser au mieux, en transigeant aux besoins avec les principes.
C'est grave.
C'est un peu le thème du jour, je trouve.
Oui.
Oui.
Oui, oui. Oui, parce que
moi, depuis hier, je réfléchis à la contradiction Avenir Québec, la coalition Avenir Québec.
Oui, oui.
Je trouve que... Je comprends là, que le mot coalition est dans le, je veux dire, non seulement l'ADN, mais dans le nom du parti. Mm. Puis c'est intéressant parce que les gens sont tannés, la partisanerie, tout ça. On voudrait qu'il y ait comme une sorte d'union nationale. Là, t'sais, pas le parti, mais une unité nationale.
Une sorte d'union sacrée. Là, ouais,
c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Sauf que... Là, tout le monde, voyant les sondages, je fonce vers ce parti qui annonce des prises extraordinaires. Isabelle Charest hier, Christine Mitton aujourd'hui. Mais quand on regarde les positions de ces gens-là, là, ça devient compliqué, je trouve.
Ça devient compliqué.
La laïcité.
Oui.
Prenons la laïcité. Oui. Jean Tremblay, la laïcité. Comment on peut réconcilier... Jean Tremblay, les positions de Jean Tremblay et celles de la coalition Avenir Québec, dis-moi.
Ben, c'est compliqué.
C'est très compliqué. J'ai fouillé hier, puis j'ai trouvé une citation de François Legault qui, pour lui, là, la prière avant le conseil municipal, qui a été le grand combat de Jean Tremblay. Il est même allé jusqu'en Cour suprême.
Il a perdu.
Je sais bien qu'il a perdu, mais ça a été son combat, puis je pense qu'il n'a pas changé d'idée. Hein.
Ah non, non, non.
Il voudrait continuer à la faire.
Mais là, à Saguenay, c'est-tu un moment de silence? Je pense que oui.
Ben, Legault, c'est ce qu'il disait dans le temps. Il dit, moi, je suis pour le maintien du crucifix, mais la prière, là, la solution est toute désignée. C'est ce qu'on fait depuis 1977 à l'Assemblée nationale. C'est un moment de silence.
Oui. Hein? Oui. De recueillement. Oui,
alors que Jean Tremblay. Tu sais, c'est toute la conception du religieux dans la société, je trouve, qui est très différente entre celle de Jean Tremblay et celle de la coalition Avenir Québec. Prenez Nathalie Roy, par exemple, qui vraiment est la porte-parole pro-laïcité. Puis ils veulent abolir la loi 62, la loi sur le visage à découvert dans les services publics. Et ils veulent l'abolir pour resserrer les règles en matière de laïcité. C'est drôle, j'ai du mal à imaginer Jean Tremblay qui va voir des électeurs potentiels puis qui fait la promotion de ça.
Mais sur les signes religieux, écoute, j'ai pas posé la question, là, mais sur les signes religieux, je ne sais pas jusqu'à quel point il serait contre l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité. Pour les personnes en autorité, il serait contre ça.
Mais tu te souviens de sa cause? Il y avait des signes religieux, il y avait le cas des signes religieux, c'était aussi dans sa cause, parce qu'il y avait...
Mais c'était surtout le Sacré-Cœur. C'était surtout le Sacré-Cœur.
C'est ça, le Sacré-Cœur,
puis la prière.
C'est pas bon pour sur une personne en autorité, mais c'était dans un lieu quand même de prise de position politique, là.
Ouais.
Le conseil municipal.
toute façon, il est bénévole, là, Jean Tremblay. Là.
Il n'est pas encore candidat.
Il ne représente que lui-même pour l'instant.
Oui, puis à la CAQ, Antoine, je ne sais pas si tu leur as parlé, mais à la CAQ, ils disent « Écoute, on l'écoute. »
On l'écoute.
On l'écoute.
Olivier Sanson de la Commission scolaire de Allô? Montréal.
Allô?
Et pour moi, ça va être important. Vous savez, vous connaissez la position de la CAQ et je veux continuer à travailler dans cette voie-là. Je pense qu'il est important qu'on travaille à opérer des changements dans notre structure des écoles publiques. On va le faire avec les parents, on va le faire avec tous les acteurs des commissions scolaires. Pour moi, c'est un engagement qu'on va prendre à la CAQ. M. Legault le dit souvent, il le dit que c'est une priorité, il le dit au lancement de sa campagne, il le dit au Congrès.
Oui, excuse-moi, l'extrait est parti, c'est Christine Mitton, la candidate du jour.
Oui.
Puis je trouve que ça met en relief aussi une autre contradiction.
Oui.
Hein? Elle travaille quand même dans une commission scolaire, Mme Mitton.
Oui.
Or, quelle est la position de la Coalition Avenir Québec sur les commissions scolaires? Bien, de les abolir?
C'est l'abolition.
Là, justement, la question portait là-dessus. Et ça
comme on a été surpris un petit peu là, d'entendre l'extrait, elle a dit quoi dans l'extrait? Là? On a compris qu'il y avait de la place pour l'évolution, là, mais en résumé, elle a répondu comment à la question, justement?
Elle a dit, en gros, que le changement dans les structures des écoles publiques doit se faire.
Okay.
Elle dit, je suis fébrile d'embarquer dans ce changement-là. Il faut travailler sur le changement avec tous les acteurs des commissions scolaires. Ça avait un peu de langue de bois là-dedans. Là.
Bon, oui.
L'école est au cœur de la communauté. C'est bon, important qu'on le fasse avec tout le monde. Les parents, elle a même dit les grands-parents. Je veux pas. Écoute, quand ils vont abolir les commissions scolaires et s'ils s'embarquent là-dedans, ça va ruer dans les brancards. Et c'est drôle parce que la Coalition Avenir Québec a toujours dit les libéraux, on sait bien où est-ce qu'ils vont chercher leur candidat dans les commissions scolaires. C'est pour ça qu'ils sont contre l'abolition. Puis le changement aussi. Elle était pour les élections scolaires aussi, Christine Mitton, là. Il y a des gens qui ont travaillé avec elle qui m'ont dit, écoute, elle a très proactivement défendu les élus de représentation et plusieurs s'étonnent qu'elle soit avec la coalition Avenir Québec. On aurait pu parler aussi, imagine, de la cohabitation dans un éventuel conseil des ministres ou d'un caucus entre Christine Mitton qui a travaillé avec Louise Arel
oui.
et Youri Chassin
oui.
qui était à l'Institut économique de Montréal et qui défendait vraiment la privatisation des services publics. Là. En tout cas, je pense que c'est un bel idéal, l'unité dans la diversité. Mais je lisais Gaétan Barrette ce matin sur Twitter qui disait se lancer en politique parce que les sondages sont bons amène une cacophonie.
Oh, boy, boy.
Ouais. Alors,
ça prend du culot quand même.
Ça prend du culot, exactement. C'est, plusieurs
comme si
lui ont dit.
Fait ça.
Parce que lui, il vient de là. Tu sais, il vient de la CAQ. Et Éric Kerr lui a répondu « Dis-moi, Gaétan, toi qui as vomi ton fiel sur le Parti libéral pendant des années, comment expliquer ta propre conversion? N'est-ce pas toi qui poursuivais Yves Bolduc pour diffamation quelques mois avant de devenir son collègue? Belle ambiance. »
Oui, et puis je te rappelle que Gaétan Barrette, à un moment donné, il avait sondé les esprits pour être candidat pour le Parti québécois. Ne l'oublions pas.
Oui, c'est ça.
Mais écoute, c'était moi le...
T'étais l'entremetteur.
Il y a un émissaire, oui, un émissaire de Barrette qui était venu me dire, écoute, Gaétan, il serait peut-être intéressé à se présenter pour vous autres. Peux-tu tester ça?
Puis alors ça, c'est peut-être justement une bonne réponse de la CAQ et de bien des gens au fait que une fois qu'on est en politique, on fait partie d'une équipe, puis on rabote un peu. Comme le dit la définition que j'ai citée tout à l'heure du petit Robert, en transigeant un peu sur les principes.
Ouais.
Puis on réussit à faire équipe et on réussit. C'est possible, là. Moi, je dis juste que j'essaie de montrer ce que je vois.
Tu trouves que l'écart entre les deux extrêmes.
Je m'en relève ce que je
trouves,
vois. Oui,
non, mais tu trouves que l'écart entre les deux extrêmes de cette coalition sont très, très éloignés l'un de l'autre.
Oui, c'est ça.
Et donc, les compromis seront d'autant plus difficiles pour certains.
Ah, parce c'est une belle conclusion.
Parce
qu'ils
ne vont pas juste raboter, ils vont avaler des couleuvres.
Ben oui. Regarde, Isabelle Charest, hier, là, elle est porte-parole pour une commission scolaire, elle. C'est une autre, là, commission scolaire. C'est je veux dire, quand tu travailles comme ça pour un organisme...
Antoine, Alex veut sauter dans la
Je voulais juste dire, penser que les gens font le saut en politique en ne faisant aucun compromis, c'est
impossible.
C'est illusoire. Là. Aucun parti politique rejoint à 100% les convictions de quelqu'un. Tu vas là où tu te sens le plus à l'aise. Mais c'est clair qu'éventuellement, tu vas avoir des compromis à faire une fois que tu es au caucus ou au Conseil des ministres. La différence, effectivement, c'est que parfois, il y a des positions tellement éloignées dans un caucus que là, il va y avoir des discussions, ma foi, assez épicées, éventuellement.
C'est clair.
Si jamais la CAQ est au pouvoir. Et de réconcilier tout ce monde-là, ça sera pas facile, mais c'est le travail ça va être le travail d'un chef et d'un éventuel conseil des ministres. Là.
Je trouve que l'ancien logo de la CAQ nous...
arc-en-ciel. Je veux dire,
faisait ressortir... Oui, c'était un logo arc-en-ciel qui aurait donné la nausée à un caméléon.
Certains disaient le toucan écrasé.
C'est ça. Je trouve que ça donnait bien, ça illustrait bien.
Le toucan écrasé, oui.
La variété des positions.
C'était comme la boîte de Fruit Loops.
Oui,
au complet,
exactement.
Ouais. Au complet, dans le logo. Ouais.
Dans le logo.
Du bleu, du vert, du rouge.
Oui, ouais. Avec un petit cap d'acide.
Bon, très bien. Alors, Antoine, on s'arrête là-dessus. On s'en va voir Alec, qui va nous parler de cette partielle dans Chicoutimi-le-Fjord.
Oui, nous en parlions hier, mon cher Bernard.
Oui.
Nous avions raison aux deux tiers.
Oui. Je sais ce que tu vas me dire. Vas-y,
ben oui.
Je t'écoute.
Parce que nous pensions, toi et moi,
oui.
que ce serait un combat entre le vote local, donc le candidat Richard Martel, très connu dans Chicoutimi-le-Fjord, ancien entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi, grande notoriété, et le vote national, celui de Justin Trudeau, parce que sa candidate n'étant pas très connue et n'étant pas... comme disait l'autre, le pogo le plus dégelé de la boîte. Alors, c'était Justin qui allait driver le vote. Ça s'est produit.
Oui.
Alors, là-dessus, on avait raison.
Oui.
Ensuite, on pensait que Richard Martel allait l'emporter.
Oui.
Ben, on pensait ça un peu quand même, soyons honnêtes.
Oui,
les sondages le prédisaient.
Oui.
On pensait qu'il allait gagner.
On s'appuyait sur un sondage, c'était d'autant plus...
Et ça fut le cas.
Oui,
Richard Martel l'a emporté.
Oui.
Par contre, on pensait, toi et moi, que les résultats seraient serrés.
Oui.
Ça s'est pas produit.
Non.
Là-dessus, on a été dans le champ. Parce que le sondage disait vrai et nos échos sur le terrain où les libéraux disaient on remonte la pente. Ça s'est pas produit. Résultat final...
On pensait que Trump avait aidé finalement
Justin
Trudeau.
Mais il a peut-être aidé. Peut-être qu'ils auraient fini plus bas que 29,5. Mais visiblement, Trump ne l'a pas assez aidé.
Non.
Il aurait fallu qu'il attaque davantage.
C'est une victoire assez convaincante. Là, Richard Martel, le 52,7% des voix. Tu le disais, Lina Boivin, la libérale, 29,5.
Ouais.
Très difficile campagne pour le NPD. Éric Dubois qui récolte 8,7%. Et Catherine Bouchard-Tremblay du Bloc québécois qui n'a pas eu l'aide de son association de circonscription, rappelons-le, parce qu'elle voulait mettre à la porte Martine Ouellet, cette association de circonscription-là. Donc, Catherine Bouchard-Tremblay étant le choix de Martine Ouellet, elle ne l'a pas aidée. Elle a fini avec 5,6%. Donc, taux de participation assez faible à 36% quand même.
Oui.
C'est toujours plus faible dans une partielle, mais 36, c'est pas énorme. Là. Et donc, les succès de Justin Trudeau dans les élections partielles depuis 2015 s'arrêtent.
Mais oui.
Parce que sur les 12 élections partielles qu'il y a eu depuis les dernières élections générales, il en avait remporté 7, Justin Trudeau. Les 5 qu'il détenait, il les avait gardés, puis il avait fait 2 gains aux dépens des conservateurs, notamment dans le comté voisin de Roberval-Lac-Saint-Jean, pas très loin, détenu par Denis Lebel. Puis dans les 12 partiels, le Parti libéral avait toujours augmenté son résultat par rapport aux élections générales. Donc, il y avait une séquence de succès là, qui s'est arrêtée hier parce que clairement, les conservateurs là, ont stoppé ça. Victoire sans appel. Faut dire, par contre, je fais juste mettre un petit bémol à ceux qui extrapolent à partir d'une élection partielle. Ça n'a jamais été un comté très favorable aux libéraux, là, Chicoutimi-le-Fjord. Denis Lemieux, qui l'avait emporté en 2015, avait surtout profité de la division du vote. Mm. Il avait à peine eu un peu plus de 30 % des voix, là, 33 % si ma mémoire est bonne, ou 34 %. Mm. C'était beaucoup la division entre le NPD, le Parti conservateur, le Bloc québécois qui l'avait aidé à l'emporter. Donc, quand le Bloc et le NPD s'effondrent, comme on le voit dans les résultats hier, ben, ça a permis de concentrer les votes autour du candidat vedette. Certains l'appellent déjà le roi Richard.
Ah oui?
Le roi Richard Martel.
Oh.
Dis-tu
que c'est une circonscription vire capot un peu? Il n'arrête pas de changer.
Oui, ça s'est déplacé parce qu'elle a voté pour le NPD en 2011, dans la vague orange, cette circonscription-là. Ce qui fait d'ailleurs d'autant plus mal au NPD, c'est qu'ils ont déjà détenu la circonscription. Puis là, il y a de la nervosité, mon cher, au caucus du Québec, du NPD.
Oui.
Rencontre hier, en fin de journée, avec le chef Jack Bidsing pour préparer la réaction à cette défaite qu'on savait qu'elle allait être cuisante. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'étincelles là, au caucus du Québec. On se demande comment relancer la machine. On n'a pas trop d'idées. Il n'y a pas encore de couteau qui s'aiguise. Ou comme me disait un observateur, si on aiguise des couteaux, c'est des couteaux à beurre. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de plan B. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu aiguises les couteaux quand tu as un plan B.
Okay.
Mais là, tu n'as pas de plan B. Alors,
tu ne peux pas ramener Thomas.
Ben non, c'est ça. Thomas vient de quitter. Là. Ben, il s'en va. Là. Alors, pas de Thomas Mulcair dans les...
Peut-être ramener Ed Broadbent.
Ouais. Broadbent, il est plus jeune. Fait que c'est ça. Fait que là, on se pose beaucoup de questions au NPD. Tu soulignais dans les derniers jours que plusieurs ont été approchés par soit les libéraux, soit le Parti Québec debout, des députés du NPD. Est-ce qu'ils veulent franchir le Rubicon, aller dans un autre parti? Pour l'instant, non, mais c'est clair qu'il y en a qui vont se poser des questions. Les meilleurs atouts là, du NPD au Québec vont se poser des questions, là. Certains devraient l'emporter aux élections de 2019, là, comme Alexandre Boulris, qui est dans un château fort néo-démocrate. Mais
je vais te dire, à part Boulris...
Mais à part lui, c'est ça que je m'en allais dire. Peut-être Hélène Laverdière, qui est quand même assez bien assis. Les autres, là, Karine Trudel dans Jonquière, Robert Aubin dans Trois-Rivières, Pierre Nantel sur la Rive-Sud de Montréal, qui sont des bons députés là, du NPD. Ils vont se poser des questions là, sur leur avenir, parce que quand tu fais 8,7% dans une élection partielle...
Puis ça ressemble, veux pas, l'électorat de Chicoutimi-Lafleur ressemble à l'électorat de Trois-Rivières où Aubin est député.
Oui.
Ressemble à beaucoup de députés, dans le fond, ou à beaucoup de comtés avec des députés néo-démocrates. Là,
oui.
Bon, il y en a une peut-être qui sauverait sa peau également. Là. C'est
Ruth-Hélène Brosseau, dans Masquinongé.
Qui fait de la sacrée belle politique et qui est très, très, très aimée.
Oui. Mais non, il y en a quelques-uns, là, mais clair qu'il y en a qui se posent des questions.
Mais oui, voilà, mais oui. Exactement.
Alors, il faudrait que ça se replace d'ici quelques mois.
Oui.
Parce que sinon, on verra bien si les couteaux à beurre seront changés pour des couteaux un petit peu plus aiguisés.
Oui, ou encore, il y en a peut-être qui vont effectivement
changer. Couteaux à steak.
Couteaux à steak, c'est ça.
Ouais, des couteaux à barbecue. OK, on s'arrête parce qu'au retour, on va parler... alors ça, c'est une rumeur... En fait, c'est une nouvelle importante. Juste avant d'aller à la pause, Antoine, si je comprends bien, Nicolas Marceau a confirmé qu'il serait candidat. Là, je veux pas que tu épilogues trop là-dessus, mais il a confirmé ou pas?
Je te dis oui, puis on s'en reparle.
Ah, OK. Mais ça, c'est
après la pause.
C'est quand même une nouvelle.
Restez
des nôtres. De retour avec Alec et Antoine. Alors, Antoine, Nicolas Marceau, qui sera finalement candidat pour le Parti québécois dans Rousseau?
C'est tout ce que je sais. C'est ça qui est plate. On sait qu'il veut démasquer la CAQ, mais pour l'instant, c'est malgré là, toutes les rumeurs qui disaient qu'il abandonnerait. Et
ben, plus
aussi...
que les rumeurs, à un moment donné, c'était carrément une nouvelle, là. Qui a été publié à l'effet qu'il ne serait pas candidat. Il l'avait nié, d'ailleurs, il n'était pas content.
Oui,
parce
c'est
qu'il
ça,
avait
il n'était pas content parce qu'il disait « je suis toujours en réflexion, ça, tu me fais peur. » Mais moi, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, et on l'a senti, je veux dire, récemment, il avait repris son mordant.
Oui.
On dirait qu'il avait repris goût à la bataille. Et bon, les informations que j'ai, là, c'est que oui, il replongerait pour un dernier tour de manège.
Mais est-ce qu'il va l'annoncer officiellement?
Écoute,
j'en
sais pas plus.
Mais pour que tu nous en parles, c'est parce que t'es très certain de ta source. Là.
Oui, c'est ça.
Ben bravo. C'est intéressant. Par ailleurs, Manon Massé, donc, qui a été officiellement désigné officiellement.
C'est pas une surprise, hein?
Ah ben non.
Contrairement à l'autre, là, c'est elle va représenter évidemment la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques que Québec solidaire a sauvé des mains du DGE qui voudrait l'effacer.
Oui.
Et aussi, ça sera son deuxième mandat. On l'oublie, hein, parce que on pense parfois qu'elle était là depuis plus longtemps, mais non. Élue en 2014, tu te souviens, elle avait vraiment livré une bataille acharnée contre Daniel Breton, qui lui va se présenter, là, qui va se représenter dans Saint-Hyacinthe cette fois-ci. Et donc, 91 voix de majorité seulement, on peut gager qu'elle en aura plus cette fois-ci.
Ah oui. Non, ça, c'est clair. Ça va être très difficile.
Mais elle va se battre quand même contre une candidate péquiste, comment dire, de renom, Jennifer Drouin, surtout dans les cercles indépendantistes, parce que c'est une indépendantiste anglophone qui une candidature originale pour le Parti québécois.
Mais rappelons qu'en 2014, quand elle a gagné Manon Massé, c'est le Parti libéral qui a fini deuxième dans Sainte-Marie-Saint-Jean.
T'as raison, c'est vrai. Il avait
le Parti québécois avait fini
troisième. Oui.
Mais c'était très serré, là, mais quand même.
Ouais. Mais vraiment une course à trois.
Oui. Mais là, je pense que ça risque d'être plus simple que ça pour Manon Massé, parce qu'effectivement, elle s'est installée.
Elle va être au débat des chefs, elle va avoir beaucoup de visibilité là, pendant cette campagne-là, contrairement à la dernière fois. Là.
Oui, puis elle s'est montrée, comment je dirais, pas juste efficace, vraie. C'est une des personnalités politiques les plus vraies, je trouve, au Québec. Là.
C'est Michel David dans Le Devoir ce matin qui l'exprimait de belle façon en disant qu'elle assume totalement sa personnalité qui est hors norme, qui est différente. Tu sais, cette espèce de d'assurance-là, ben c'est de l'authenticité.
Cette authenticité-là,
finalement,
vaut,
ça fonctionne.
Oui, ça vaut de l'or, effectivement. On s'arrête avec toi, Antoine, un instant. On s'en va rejoindre notre ALEC national qui va nous parler, donc, de cette très, très grande controverse qui fait rage toujours aux États-Unis sur les enfants qu'on sépare des parents. Puis là, le gouvernement du Canada, Justin Trudeau, hier, n'a pas voulu s'en mêler.
Non. Mais en réalité, il se passe des choses. Donc, la controverse déborde jusqu'ici parce que le gouvernement canadien a déclenché officiellement une vérification sur la politique américaine de séparer les familles des demandeurs d'asile, là, ce qu'on voit beaucoup dans les derniers jours. Donc, alors, c'est une enquête interne des fonctionnaires d'Immigration Canada qui est faite en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés parce qu'on le sait, depuis maintenant le début du mois de mai, l'administration Trump sépare les enfants de leurs parents lorsqu'ils arrivent à la frontière. Donc, quand ils sont des demandeurs d'asile, qu'ils arrivent par des voies irrégulières. Donc là, à date, on a séparé 2300 enfants entre le 5 mai et le 9 juin. C'est une moyenne de 66 par jour. Je ne sais pas si vous avez vu les images, là, mais les enfants sont dans des cages, ils pleurent. C'est insoutenable. Pour des parents, voir ça, là, c'est insoutenable.
Vraiment.
D'ailleurs, la controverse, elle est immense, y compris dans le camp républicain aux États-Unis. Puis là, l'enquête d'Ottawa est déclenchée parce que est-ce qu'on doit encore considérer les Américains comme un pays sûr pour ce qui est de l'accueil des réfugiés?
Oh, c'est important, ça.
Ben oui, parce que est-ce que ça contrevient aux conventions internationales que de séparer les enfants des parents?
Et à l'entente sur les tiers pays sûrs
qu'on
est avec les États-Unis.
Exactement. Et donc, c'est ça qu'on est en train de réévaluer parce que moi, en privé, j'ai parlé à plusieurs personnes au gouvernement et on est outré de ce qu'on voit aux États-Unis. On condamne la pratique. Évidemment, on le fait en privé pour l'instant parce que publiquement, il y a beaucoup de répercussions si on le fait diplomatiquement parlant.
Je veux dire, si on sortait, là, si Trudeau sortait pour condamner ça, là, ce serait l'intention d'imposer des tarifs là, en représailles aux tarifs imposés par Trump, ce serait de la petite bière par rapport à la réaction.
Ah, écoute, déjà que la relation entre les deux, pour l'instant, elle est délicate. Là. Alors, ce qu'on me dit, moi, du côté canadien, c'est qu'on va faire une vérification des faits qui va prendre quelques semaines. On va se baser ensuite sur ce qu'on va découvrir. On va attendre de voir aussi ce qui se passe aux États-Unis parce que ça bouge beaucoup aux États-Unis. Je le disais, la controverse, elle est très forte. Donc, le Congrès pourrait bouger. On dit que c'est fluide actuellement. Donc, avant que nous, on sorte publiquement au Canada pour dire que c'est inacceptable, on renie l'entente sur les tiers pays sûrs. Les États-Unis ne sont plus un pays sûr en matière d'accueil des réfugiés. On peut laisser le débat se faire aux États-Unis et voir comment ça va se placer dans les prochains jours. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. On allait faire bien attention. Je te fais entendre deux extraits. Donc, d'abord, le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, très rapidement, puis ensuite, Pierre Paulus du Parti conservateur.
We have to see the impact of these changes on the domestic asylum system in the United States to see whether the U.S. continues to meet its obligations, not just to the international community, but to also the safer.
C'est pas une pratique qui est acceptable en aucun temps. Puis on ne va jamais proposer ce genre de choses-là, là, de séparer les enfants de leurs parents. Là, ça se fait pas. Il y a moyen de faire passer un message aux gens de venir de façon légale chez nous, mais sans faire ce genre de pratique-là. Bien entendu, qu'on ne supporte pas ça pour tout.
On est rassuré.
Voilà. Et ici au Canada, quelle est la politique? Je me suis posé la question. Je suis allé voir, évidemment, parce qu'on en reçoit des familles là, avec des enfants qui sont des demandeurs d'asile qui arrivent par voies irrégulières. En fait, la directive à l'Agence des services frontaliers est complètement l'inverse de celle des États-Unis. C'est-à-dire que la directive stipule que les enfants mineurs doivent rester avec leurs parents et que la séparation, c'est le dernier recours. Donc, les
gardiens. Le dernier recours, ce serait quoi si on doit les incarcérer, par exemple?
Ben, ça arrive parce que, regarde, en 2017, il y a 150 enfants mineurs qui provenaient de familles de demandeurs d'asile qui ont été incarcérés au Canada. Mais de ce nombre, 145 l'ont été avec un de leurs parents. Ce que ça veut dire, c'est que c'est souvent le parent qui est incarcéré parce qu'on n'a pas assez de preuves sur son identité. Il a déjà, par exemple, un casier judiciaire dans son pays d'origine. Bref, il faut l'incarcérer pendant un certain moment. Il arrive avec un enfant d'âge mineur. Cette personne-là, pas nécessairement, cet enfant-là, pas nécessairement nulle part où aller, donc on les incarcère ensemble. C'est arrivé 145 fois en 2017. Il y en a seulement 5 des mineurs qu'on a incarcérés tout seuls, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis, il y en a seulement 5, généralement parce qu'ils arrivent tout seuls, parce que tu peux arriver par avion, tu peux arriver par les voies terrestres tout seul, et que là, soit que cet enfant-là avait un casier judiciaire, par exemple dans le cas d'un adolescent, ou qu'il n'y avait pas de papier en ordre, on l'a incarcéré pendant une période de temps. Mais Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique, disait encore ce matin, écoutez, ça arrive très, très rarement, notre politique, elle est à l'inverse de celle des États-Unis, on essaie de garder les parents avec les enfants le plus possible, puis de les incarcérer le moins possible. Puis Ralph Goodale, il était ébranlé, là. il était ébranlé. J'ai un extrait que je te fais entendre. On va terminer avec ça parce que je sais que le temps file. Mm-hmm. Mais je disais que le Canada a été prudent dans ses commentaires diplomatiques. Mais écoutez, Ralph Goodell, t'as l'impression qu'il voulait en dire un peu plus.
Mm. Well, obviously, anyone looking at the human images would be very, very concerned. Children are very precious creatures, and we all, I'm sure, need to have their safety, their security, their well-being first and foremost in our minds, and that is what lies at the very basis of Canadian policy.
Les enfants sont de précieuses créatures. Il faut leur faire attention. Il dit quand on voit des images comme celles qui viennent des États-Unis, c'est sûr que ça fait très, très mal.
Mais hein. Ouais. On va s'arrêter là-dessus. Je signale, soit dit en passant, que le Dow Jones est fortement à la baisse au moment où on se parle. Évidemment, c'est la conséquence des menaces de Trump d'imposer encore plus de tarifs sur les produits chinois. Donc, le risque que la guerre commerciale empire ou qu'il y ait une escalade dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine fait chuter actuellement les marchés boursiers.
Ici au Québec, hein, il y a un conseil des ministres spécial cet après-midi, rencontre de travail justement en lien avec ces perturbations-là entre le conseil des ministres et les principaux représentants des associations patronales et syndicales.
Exactement.
Point de presse à 17h30.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité, merci.
À demain.
Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci Antoine.
Au revoir.
Loïc Tassé, dans un instant avec l'International.